Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. L'appel au calme de Jean Castex qui condamne les violences en Guadeloupe. Le Premier ministre tenait ce soir une réunion avec des élus guadeloupéens, réunion à distance puisque Jean Castex a été testé positif au Covid. La progression du virus inquiète le gouvernement qui demande aux entreprises et aux restaurants d'empêcher le relâchement chez les salariés et les clients. On fera le point sur les derniers chiffres de l'épidémie. Un huis clos total pour l'Olympique lyonnais en attendant les sanctions définitives après le jet de bouteille sur Dimitri Payet hier soir lors de Lyon-OM. L'automobiliste qui a foncé dans la foule d'une parade de Noël aux États-Unis va être inculpé pour 5 homicides mais sans aucun lien avec une attaque terroriste. La météo de la pluie arrive par le sud, nous dira Marlène Duret. L'invité quoi, à 22h20, on va parler embauche avec la DRH du groupe Saint-Gobain et puis on découvrira les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Stop à la violence. Jean Castex lance ce soir un appel au calme en direction de la Guadeloupe. Le Premier ministre tenait une réunion avec des élus locaux en visioconférence car Jean Castex vient donc d'être testé positif au Covid. Il s'était signalé comme cas contact avec l'un de ses enfants atteint du virus. Le Premier ministre qui appelle donc au calme tout en condamnant les violences en Guadeloupe.
Il ne s'agit pas seulement d'exprimer une opposition à l'obligation vaccinale des soignants et aux mesures de suspension que nous avons prises pour les 1400 professionnels qui se sont soustraits à ce jour à cette mesure sanitaire. Il s'agit surtout désormais d'agresser et de piller. J'ai donné toutes les instructions pour que l'ordre républicain soit rétabli et j'ai envoyé sur place des forces supplémentaires. J'en appelle désormais au calme et à la responsabilité.
La nuit dernière, en Guadeloupe, s'est révélée moins agitée que les précédentes, mais les autorités sont préoccupées par un vol commis dans un bâtiment des douanes, un bâtiment incendié dans la nuit de vendredi à samedi à Pointe-à-Pitre. Richard Garnier, vous êtes sur place. Des voleurs ont profité de cet incendie pour dérober des armes lourdes.
Des armes de guerre, des pistolets 9 mm semi-automatiques Sig Sauer, un fusil à pompe, un pistolet automatique 9 mm, autant d'armes de gros calibre qui ont été dérobées dans le local des douanes et des gardes-côtes. Durant le week-end qui vient de s'écouler, les casseurs semblent-ils bien renseignés sur ce qu'ils allaient trouver dans cet entrepôt connu pour abriter le matériel des forces de l'ordre maritime et enfermant des scellés placés dans des coffres-forts, s'étaient introduits. Plus inquiétant, en plus de ces armes de guerre qui pourraient bien à l'avenir se retourner contre les policiers, plus de 2000 munitions auraient également été dérobées. Quant à la nuit dernière, elle fut bien moins agitée que les trois précédentes, sans qu'il y ait eu d'opposition armée entre émeutiers et forces de l'ordre. Par contre, des incendies sur des barrages réinstallés ont été constatés, où des odeurs de produits toxiques ont incommodé les riverains. Par ailleurs, 11 interpellations ont été opérées par les policiers, essentiellement de groupuscules étant en repérage. Reste qu'en cette soirée de lundi, les barrages provoquent toujours d'importantes perturbations de circulation. Quant à la nuit prochaine, certains redoutent qu'elle ne soit marquée par de nouveaux heurts.
Richard Garnier, correspondant d'Europe 1 et RCI en Guadeloupe. Sur place, l'Agence régionale de santé dénonce des agressions physiques contre des personnels soignants. Au cours des derniers jours, des médecins ont été agressés, en particulier pendant des visites à domicile. L'ARS rapporte ainsi des tentatives de carjacking, des menaces au fusil à pompe et même un médecin tenu en joue avec un fusil sur la tempe à un barrage routier à la sortie de sa garde aux urgences. L'appel au calme de Jean Castex se double d'un autre objectif, éviter la contagion des violences à la Martinique voisine, gagnée à son tour par la colère et où a commencé aujourd'hui une grève générale. Les manifestants bloquent les accès au port, à la raffinerie et à des zones commerciales. L'épidémie de Covid continue de redécoller sur tout le territoire et d'ailleurs jusqu'au sommet du pouvoir. Je vous l'annonçais en début de journal, Jean Castex lui-même est donc positif au Covid. L'heure n'est pas encore à de nouvelles restrictions, mais le gouvernement cherche plutôt à faire respecter les mesures déjà en place. Dans une lettre au préfet, Gérald Darmanin demande ainsi de la fermeté dans le contrôle du pass sanitaire au restaurant. Elisabeth Borne appelle les entreprises à être plus strictes dans le respect des gestes barrières. Vous avez rassemblé les derniers chiffres de l'épidémie, Céline Géraud. Alors, quels sont les départements les plus touchés ?
Alors un premier indicateur d'abord, le taux d'incidence moyen sur l'ensemble du territoire est désormais de 171 cas pour 100 000 habitants, plus 80% en 7 jours. Je rappelle que le seuil d'alerte est fixé à 50. Alors ce soir, un quart des départements affichent un taux d'incidence supérieur à 200 et cela explose dans 5 départements. L'Ardèche avec un taux record à 358, devant la Haute-Corse, les Landes, les Bouches-du-Rhône et le Haut-Rhin. Mais ces taux d'incidence ne sont pas aussi menaçants qu'au début de l'épidémie. La couverture vaccinale reste un bon bouclier contre les cas graves, les hôpitaux ne sont pas encore saturés et la campagne de rappel pour les plus de 65 ans bat son plein. Ce soir, le Conseil scientifique et le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, les deux instances consultatives créées par le gouvernement, jugent qu'un rappel de vaccin peut s'envisager pour tous les adultes. Vendredi, je le rappelle, la Haute Autorité de Santé avait recommandé d'injecter la dose de rappel dès 40 ans. Enfin, cet après-midi, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé que des créneaux de vaccination seront ouverts à tous à partir de 12 ans pour une dose de rappel dès le 1er décembre.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. La situation est plus préoccupante encore parmi nos voisins européens. Les Autrichiens ont connu ce lundi leur première journée de reconfinement général, une mesure inédite en Europe depuis que nous avons le vaccin. Plus près de nous, en Allemagne, Angela Merkel ne cache plus son inquiétude. Et pour marquer les esprits, Hélène Kohl, son ministre de la Santé, a eu une formule choc.
Oui, Jens Spahn reprend à son compte une formule que les spécialistes utilisent depuis plusieurs semaines déjà. Compte tenu de l'agressivité du variant Delta, tout le monde sera exposé au virus dans les prochains mois à ses risques et périls. Il précise ensuite sa pensée, sauf à faire, je cite, très attention. Dans toutes les situations de vie, chacun va croiser la route de Delta. La vraie question est de savoir comment on veut répondre à cette maladie en étant vacciné ou bien en prenant le risque de faire une forme grave et donc peut-être de mourir. La situation est hautement dramatique selon Angela Merkel. Elle critique les mesures de restriction qui ont été décidées la semaine dernière par les partis de la future nouvelle coalition. Sauf que cette quatrième vague a été exactement pronostiquée et modélisée le 8 juillet dernier déjà, et c'est bien le parti de la chancelière qui a refusé de durcir le ton au début de l'automne, quand il était clair que la courbe était exponentielle. La Bavière évacue déjà ses patients, y compris vers l'étranger, l'Italie notamment. Les projections sont effrayantes, il pourrait y avoir 100 000 morts cet hiver.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Les violences conjugales en hausse de 10% en 2020. Le chiffre a été dévoilé aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Près de 160 000 personnes en ont été victimes l'année dernière, des femmes dans 9 cas sur 10. Ernestine Ronet est responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes et elle voit trois leçons à tirer de ces chiffres.
Mais moi, ce que je voudrais dire au Premier ministre, c'est que la réponse qui a consisté.
On voulait entendre Ernestine Ronet, donc responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes, qui commande donc ces chiffres. Près de 160 000 personnes victimes l'année dernière de violences conjugales, dans la très grande majorité des femmes, en partie, selon elle, parce que le confinement, les restrictions et le confinement ont encouragé ces gestes, mais aussi d'un autre côté, nous dit Ernestine Ronet, parce que les femmes vont davantage porter plainte désormais, encouragées par leurs proches ou par leur voisinage. Avec l'appui de l'OM de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet porte plainte après avoir reçu une bouteille sur la tête hier soir au Groupama Stadium au tout début de la rencontre Lyon-Marseille. Rencontre qui n'aura donc duré que 4 minutes. Après plus d'une heure d'atermoiement, l'arbitre a finalement arrêté définitivement la rencontre. Les premières sanctions sont tombées. Cyril de la Morinerie, c'est un huis clos total pour le stade de l'OL.
Oui, Lyon jouera son prochain match à domicile prévu contre Reims le 1er décembre prochain dans un stade vide. Décision prise à titre conservatoire, il faudra attendre le 8 décembre prochain pour connaître les décisions définitives. Ce qui a notamment choqué hier soir, c'est la lenteur de la prise de décision. Il a fallu attendre plus d'une heure et demie avant que l'arbitre annonce l'arrêt définitif du match. La ministre déléguée chargée des sports, Roxana Maracineanu, a appelé sur Europe 1 une modification des règlements.
Il faut laisser les coudées franches et surtout les donner, les coudées franches aux arbitres pour qu'ils puissent décider d'après un texte qui est écrit noir sur blanc et on connaisse la procédure.
Roxana Maracineanu qui a apporté son soutien à Dimitri Payet, très choqué, le milieu de terrain de l'OM a porté plainte. Le président de la Ligue, Vincent Labrune, est quant à lui sorti de son trop long silence dans l'équipe. Il est urgent, dit-il, de proposer des solutions plutôt que de balancer des petites phrases assassines. Les représentants du football français ont été convoqués pour une réunion demain matin au ministère de l'Intérieur.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Jour d'interrogatoire pour François Fillon ce lundi. L'ancien Premier ministre était questionné par le juge au procès en appel du Penelope Gate face aux soupçons d'emploi fictif dont aurait bénéficié sa femme. François Fillon assure une fois de plus de la réalité du travail fourni. Marion Gauthier.
Oui, comme en première instance et d'une voix monocorde, l'ancien Premier ministre défend le travail discret de son épouse. Lecture du courrier, écoute des administrés, mais surtout représentation dans la circonscription. L'ennui, c'est que c'est ça l'essentiel, lance-t-il. Le salaire, très élevé, relève le président à plusieurs reprises. Mérité, répond le prévenu. Elle était la plus diplômée de mes collaborateurs. François Fillon se tient droit, le regard souvent baissé sur ses notes. Il ne scie pas devant les saillies ironiques du président de la Cour sur les discours qu'aurait corrigé Pénélope. Celui-ci s'étonne. On est quand même dans une collaboration à forte tonalité immatérielle. Sur le travail des enfants Fillon embauchés alors que leur père était sénateur, il sourit encore. C'est une généralité chez vous. On laisse très peu de traces. Pas de réaction. François Fillon souligne que l'emploi de proches était monnaie courante à l'époque des faits. Même si on a commis des tas d'erreurs de communication, insiste-t-il, on n'a enfreint aucune règle.
Marion Gauthier à la Cour d'appel de Paris. Aux États-Unis, la piste terroriste est désormais écartée après le drame qui s'est produit hier soir dans les rues de Waukesha, dans le Wisconsin. Un homme au volant d'un SUV a fait au moins 5 morts et une quarantaine de blessés dans la foule d'une parade de Noël. La police a identifié le conducteur, Alexis Guilleux, quelques minutes avant son geste fou. Il était impliqué dans un autre incident.
Oui, il venait de fuir la scène d'une dispute conjugale, selon le chef de la police locale, qui n'a pas donné davantage de précisions. On sait en revanche que le suspect n'était pas poursuivi par les forces de l'ordre à son arrivée à proximité de la parade à bord de son SUV rouge.
Le suspect a été arrêté à une courte distance de la scène du crime et nous sommes convaincus qu'il a agi seul. Il n'y a aucune preuve qu'il s'agisse d'un incident terroriste. Le suspect est identifié comme Darrell Brooks, un homme de 39 ans, résident dans la banlieue sud de Milwaukee.
Les premières informations dressent le portrait d'un homme multirécidiviste. Il venait d'être libéré sous caution après avoir voulu écraser la mère de son enfant il y a quelques semaines. 5 chefs d'accusation pour homicide volontaire pèsent désormais contre Darrell Brooks. Les autorités ont également donné les noms des 5 victimes, 4 femmes et un homme, tous âgés de plus de 50 ans. Parmi les 48 blessés, 2 enfants sont en état critique. Et symbole de ce traumatisme vécu par la ville de Waukesha, les écoles resteront fermées toute la semaine.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Sur les îles Canaries, le volcan entré en éruption il y a plus de 2 mois maintenant continue d'empoisonner le quotidien de la population puisque 3000 personnes ont reçu l'ordre de se confiner par crainte d'émanations toxiques, des émanations liées à l'arrivée dans la mer d'une nouvelle coulée de lave. La Transat Jacques Vabre, les premiers bateaux sont attendus à Fort-de-France en Martinique dans la nuit, les ultimes menés par le duo Camas-Caudrelier et le voilier de la classe Ocean 50, piloté par les skippers Sébastien Rogue et Mathieu Souben, qui mesure pour sa part combien leurs efforts ont payé.
Ça fait maintenant une dizaine de jours qu'on bataille en tête de la flotte des Ocean 50, avec des hauts, des bas, une avance colossale qui a fondu dans le poteau noir, et puis après il a fallu reconstruire tout ça. On a réussi à rester en tête sans regarder derrière, naviguer libéré, et c'est pas facile à faire, et nous, on devrait arriver dès demain matin, normalement.
Voilà, Mathieu Souben par Vacation Radio demain matin. Eh bien, c'est donc dans quelques heures maintenant pour l'arrivée à Fort-de-France en tête de la Transat Jacques Vabre. Il faudra se montrer un peu plus patient encore cette année pour mettre à jour son coup de fourchette puisque la parution du guide Michelin 2022 a été repoussée de 2 mois. Le tout afin de s'adapter au rythme de reprise des restaurants. La nouvelle édition du guide sera donc présentée le 22 mars prochain. La météo pour ce mardi, Marlène Duret, eh bien, c'est de la pluie, Marlène, qui arrive dans le sud, dans le golfe du Lion.
Oui Alexandre, dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, les pluies vont se renforcer au fil des heures demain pour devenir assez marquées en soirée et en première partie de nuit avec un risque orageux. La journée de mercredi risque d'être bien arrosée. On parle d'un épisode méditerranéen avec de bons cumuls d'eau attendus. Sur le reste de l'Occitanie et le Sud-Aquitaine, les nuages seront plus nombreux l'après-midi que le matin avec quelques pluies faibles possibles plutôt au sud de la Garonne. Un temps variable se mettra en place encore Corrèze, en Auvergne, dans la région lyonnaise et dans le Jura. Alors variable, on va dire partagée entre soleil et grisaille. Variable aussi près de la Manche, mais là, nous aurons un risque d'averse en plus. Et puis, partout ailleurs, c'est le soleil qui dominera, avec d'ailleurs un joli ciel bleu attendu dans les régions de la moitié nord, dans une atmosphère évidemment rafraîchie compte tenu du vent, le vent de nord-est qui va souffler. Alors à propos des températures le matin, là où il fera le plus frais, ce sera dans les régions du Grand Est, jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et à la région centre, puisque le thermomètre descendra entre moins 4 et 1 degré. Ça monte jusqu'à 12 en Méditerranée. Et puis l'après-midi, prévoyez un minimum de 5 degrés à Mulhouse, 6 à Lyon et Nancy, 7 à Vichy, 9 à Paris, Grenoble, Tarbes, 10 degrés à Rennes et Angoulême, 11 à Calais et Mont-de-Marsan, 12 à Orange, 13 à Montpellier, 14 à Montauban et jusqu'à 18 à Antibes.
Merci Marlène Duret, nouveau point météo avec vous à minuit. Dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamo sur Europe 1. L'invité éco, vous entendrez Claire Pedini, directrice des ressources humaines de Saint-Gobain, qui prévoit des dizaines de milliers d'embauches l'année prochaine. A tout de suite. Top à Wall Street avec Didier Hamo sur Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui démarre la semaine en hausse malgré les hésitations du secteur technologique.
Oui, Wall Street est partagé ce soir entre la hausse du Dow Jones, une toute petite hausse, plus 0,05%, 35 619 points, et la baisse des valeurs de technologie. Effectivement, le Nasdaq moins 1,26% quand même, 15 855 points. En fait, le Dow Jones a été soutenu par la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Banque Centrale Américaine. Annonce faite cet après-midi par la Maison Blanche, un second mandat salué par les valeurs bancaires, surtout Goldman Sachs, plus 2,2%. Morgan Stanley, plus 2,5%. JP Morgan, plus 2,1%. Alors que du côté des valeurs de technologie, c'est beaucoup plus discuté, avec des baisses de l'ordre d'1% sur Microsoft. Amazon perd 2,8%. Apple résiste autour des 161 $. Beaucoup d'opérations financières aussi. Le fonds KKR a lancé une offre de 12 milliards de dollars pour le rachat de Telecom Italia. Une très grosse opération qui anime évidemment le marché. Le pétrole remonte un petit peu, 76,45 $ le baril, plus 1%. L'euro reste, lui, très discuté, 1,1240 face au dollar.
La Bourse de Paris aligne une troisième séance de baisse dans un marché calme.
Oui, un marché très très calme. Une petite baisse, troisième séance de repli quand même, effectivement. Moins 0,10%, 7105 points. Les valeurs du luxe qui avaient fortement progressé ont reperdu du terrain, à commencer par Hermès, qui redescend d'1,9%. Il y a des prises de bénéfices. Le titre était au plus haut de son histoire. 1 643 € sur Hermès. L'Oréal aussi a rechuté de 2%. Là, le broker Morgan Stanley a dégradé le numéro 1 mondial des cosmétiques en estimant qu'il était normal de marquer une pause après un parcours exceptionnel, un parcours boursier marqué par une progression de 20% en l'espace d'un mois et demi. Donc L'Oréal ce soir en baisse de 2%. Il y a aussi Kering qui recule de 1,2%. LVMH cède plus modestement 0,7%, 728,30 € à la clôture.
Et puis, exception du jour, Didier, le titre Vallourec qui rebondit de plus de 10%.
Oui, le secteur pétrolier et parapétrolier reste très nerveux avec une très forte volatilité des cours. Vallourec, le fabricant de tubes qui avait plongé de 14% en fin de semaine dernière, reprend 11% ce soir, 7,55 €, soutenu par le broker Kepler Chevreux qui est repassé à l'achat sur Vallourec en remontant son objectif de cours de 9,4 à 11 €. Donc Vallourec ce soir en hausse de 11%. Les autres places financières sont globalement en légère baisse. Le DAX à Francfort, moins 0,27%. Amsterdam, moins 0,8%. Londres, moins 0,3%. On rappelle le CAC 40 en baisse, timide de 0,10%. 7105 points.
Merci Didier Hamo de Boursier.com.
La Caisse d'épargne vous présente l'invité éco. Caisse d'épargne, vous être utile.
Parmi les grands groupes qui profitent à plein de la reprise économique, Saint-Gobain s'apprête à recruter 36 000 personnes l'année prochaine. L'invité éco ce soir, Claire Pedini, directrice des ressources humaines du groupe Saint-Gobain. Elle répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Claire Pedini.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la DRH groupe Saint-Gobain. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est parce que un chiffre m'a impressionné. Vous avez annoncé 36 000 recrutements à travers le monde l'an prochain. Je précise que vous avez 167 000 salariés aujourd'hui. C'est énorme quand même. Pourquoi un tel besoin l'an prochain ?
Parce que Saint-Gobain est en croissance, parce que Saint-Gobain a besoin de servir ses clients qui investissent dans le bâtiment pour pour décarboner les immeubles, pour accompagner aussi l'industrie automobile dans sa décarbonation, nos clients industriels. Et puis parce que nous avons des métiers très variés, nous sommes dans 72 pays, et donc nous devons accompagner notre croissance à travers le monde.
Est-ce que c'est un plan de recrutement historique, exceptionnel chez Saint-Gobain ?
Je dirais pas ça, on recrute en moyenne 30 000 personnes par an si on regarde sur ces dernières années, donc un peu moins de 30 000 personnes. Donc vous voyez, c'est quand même une vingtaine de pourcents en plus, donc oui, c'est très significatif. Et c'est aussi un plan d'accélération pour le coup, je dirais, vis-à-vis des jeunes. Parce que sur ces 36 000 personnes, nous allons recruter près de 40 % de jeunes. Et si on l'illustre sur la France, c'est 7 500 recrutements en France, dont plus de 3 500 jeunes. Donc s'il y a accélération, je dirais, c'est plutôt sur les jeunes, même si on est 20 % en plus que ce qu'on fait habituellement.
C'est une accélération sur les jeunes qui, elle, est là historique. En revanche, jamais il n'y avait eu un tel impact mis sur les moins de 26 ans ?
Je pense que oui. Les plus de 3 500 jeunes recrutés, ils s'additionnent aussi avec 2000 apprentis que nous allons recruter à nouveau l'année prochaine. On a également intégré 2000 apprentis cette année. Ça, c'est un chiffre historique. On fait beaucoup pour les jeunes. On s'était fixé 2000 apprentis cette année. On renouvellera ce chiffre l'année prochaine. On aura également 500 stagiaires, une centaine de VIE. Donc oui, on met un peu plus le paquet sur les jeunes, effectivement.
Quand on regarde ce chiffre, alors prenons peut-être, comme vous le disiez, la fourchette française, 7500 embauches. Est-ce que ce sont des embauches nettes ou c'est parce que, par ailleurs, vous avez une pyramide des âges, comme on dit, qui vous est favorable ? C'est-à-dire qu'il y a un paquet de collaborateurs qui ont atteint l'âge de la retraite et il faut les remplacer. Ou est-ce que c'est vraiment 7500 créations de postes ?
Non, ce n'est pas des créations de postes, c'est évidemment des embauches. Alors, c'est des embauches brutes, pour parler plus précisément. Mais ce seront évidemment des créations nettes au total. Vous avez raison, une entreprise, c'est un corps vivant qui respire. Il y a des gens qui prennent leur retraite. Il y a quelquefois des gens qui nous quittent. On espère garder tous ceux qui veulent rester chez nous. Mais donc, en revanche, c'est une masse d'embauches assez significative. Oui.
Vous le disiez, c'est pour accompagner la transformation, l'accélération de Saint-Gobain. Vous avez de nombreux métiers dans lesquels vous êtes leader mondial dans le monde de la construction de la maison, de l'habitat, des métiers qui parfois, justement du côté des jeunes, ne sont pas suffisamment attractifs. Comment les rendre attractifs aujourd'hui ?
En leur donnant du sens. Le bâtiment, c'est 40% des émissions de CO2 à travers le monde. Et Saint-Gobain est le leader mondial de la construction durable, c'est-à-dire qu'on a des solutions qui peuvent décarboner le bâtiment. En vendant, grâce à Isovert, des solutions d'isolation, en vendant les doubles vitrages très efficaces dont vous avez parlé, en vendant avec Placo aussi des solutions qui nous permettent d'avoir un meilleur bien-être dans nos maisons ou dans nos immeubles.
On est en pleine semaine de l'industrie en ce moment, et notamment autour du recrutement dans le monde de l'industrie en France. Et on sait que c'est dur parce que le métier est encore, et parfois à tort, parce que les usines se sont complètement révolutionnées, mais parfois considérées comme dures, comme très masculines. Ça a changé, ça, vous pouvez nous le promettre ?
Ça change très très vite. Ça change très vite, et vous avez complètement raison. Au-delà des métiers en support de clients, dont je parlais tout à l'heure, pour vendre nos solutions, des solutions, donc des personnes qui sont dans nos agences Point P, qui sont des vendeurs, on a beaucoup, dans ces 36 000 embauches dont je parlais, de métiers liés à l'industrie. C'est de l'industrie très innovante, c'est de l'industrie digitalisée, c'est de l'industrie 4.0, comme on dit, c'est des chefs de ligne, des ingénieurs process. Ce sont des métiers très technologiques qui évoluent très vite et qui permettent effectivement d'apporter sa brique, sans aucun jeu de mots, à cette décarbonation dont je parlais tout à l'heure. Et c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Vous disiez, c'est un métier qui est masculin, il est vécu comme tel. Mais on féminise. En France, on recrute 40% de femmes en ce moment. Donc, vous voyez, on est une entreprise qui recrute des femmes à un niveau très significatif, malgré l'image, effectivement, d'industrie masculine qu'on peut avoir, qui est en train de, je pense, de changer.
Autre point très important, on le dit depuis le début de cette interview, 36 000 recrutements, 7 500 en France. Mais il paraît qu'il n'y a pas de candidats. On n'a jamais eu une telle pénurie. Vous allez réussir à atteindre cet objectif historique et ambitieux ?
Il y a des candidats. Il y a des candidats, notamment dans l'apprentissage. Hein. C'est aussi pour ça qu'on ouvre nos portes aux apprentis. On essaye d'en recruter une bonne partie, d'ailleurs, hein, au terme de leur apprentissage. Il y a des candidats qui sortent des formations continues, des formations d'université et de grandes écoles. Donc les candidats, ils sont sur le marché. Il faut les attirer. Et comme je le disais, en leur donnant du sens collectivement, mais aussi en leur donnant du sens dans leur quotidien. Je suis très attachée à ce que chacun au sein de son équipe sache pourquoi il vient bosser le matin. C'est extrêmement important. Donc il faut un sens collectif, ça c'est Saint-Gobain qui le donne, et il faut un sens individuel au sein de l'équipe, dans le quotidien et le travail de proximité.
Désolé d'être terre à terre, le sens c'est aussi parfois ce qu'on a sur sa fiche de salaire à la fin du mois. Est-ce que là, parce qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi, vous embauchez en proposant des salaires un peu meilleurs que ces dernières années?
Oui, fatalement, les salaires sont effectivement meilleurs. On a aussi la chance, quand on intègre un groupe comme Saint-Gobain, d'avoir plus que son salaire. Je m'explique. On a une mutuelle, on a un intéressement qui cette année est très significatif, ça peut être un mois et demi de salaire dans nos agences .p cette année. On a un plan d'épargne d'entreprise qui est renouvelé chaque année depuis 30 ans. Donc le salaire, c'est effectivement fondamental, mais il y a tout ce qu'on appelle les avantages sociaux parce que c'est aussi un supplément au-delà de la feuille de paye.
Eh bien, merci pour tous ces détails, Claire Pedini. Je rappelle que vous êtes la DRH groupe de Saint-Gobain. Saint-Gobain qui embauche donc 36 000 personnes à travers la planète, dont 7 500 en France. Un grand merci à vous. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous, Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également avec Carole Ferry de 13h à 14h pour La France Bouge. Sur Europe 1, votre invité sera le patron des parcs d'attractions de la Compagnie des Alpes. Le bilan des vacances de Toussaint est très bon. Ce sera aussi l'occasion justement de se pencher sur les prochaines fêtes de fin d'année.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Allez, voyons ensemble les unes de vos quotidiens pour ce mardi 3 novembre. Les journaux reviennent demain sur la flambée de violence en Guadeloupe où sévit un état de défiance. C'est la une de La Croix. Le mouvement de révolte aux Antilles, notamment anti-vax, se nourrit de revendications récurrentes depuis plus de 10 ans, illustrées par le scandale du chlordécone. Dans son édito, La Croix parle même de surinfection actuellement en Guadeloupe. La Guadeloupe qui attend des réponses, note Ouest France. Le mouvement social qui s'est étendu maintenant à la Martinique a débuté sa deuxième semaine en Guadeloupe. Et si la nuit de dimanche à lundi a semblé plus calme, écrit Ouest France, eh bien des débordements ont à nouveau été constatés. La reprise économique, oui, et on vient de le voir, on vient de l'entendre avec Saint-Gobain qui prévoit 36 000 embauches en 2022, mais une reprise sous surveillance, titre Les Échos, alors que les mesures de restriction sanitaire se multiplient en Europe, si bien que la reprise de l'activité européenne pourrait en pâtir cet hiver. Zoom à la une de Libé sur Interpol. Interpol, des flics sous influence, écrit Libération, instrumentalisé par les pays autocratiques. L'Organisation de coordination des polices mondiales ouvre ce mardi son assemblée générale pour élire son futur président, alors que se trouve en lice et comme favori un général émirati accusé de torture. Enfin, le Figaro se penche sur les projets fous des milliardaires de la tech. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, les hommes les plus riches de l'histoire comptent sur la technologie pour sauver l'humanité. Le Figaro vous propose donc une enquête sur leurs projets, leurs obsessions et leurs lubies. 22h et quasiment 30 minutes sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Le week-end a été bon.
Il a été très bon. Il a été très bon.
Vous avez bon teint.
Oui, mais la campagne, vous savez, ça fait du bien.
Vous ne faites pas d'UV, vous, hein ?
Non, pas du tout. Je ne fais aucun UV. C'est du pur naturel. Et j'étais en train de penser à la une du Figaro de demain. Moi, je proposerais à la une de mon journal demain de retourner à la terre, au bon vent, les animaux, la forêt, les bonnes balades, le yoga,
Et si c'était ça le luxe ultime ?
Mais c'est cela, mon cher. Et en plus, si on est au bord de la mer, des vagues, du surf,
c'est encore mieux.
Vous voyez, le naturel, le bonheur est dans le naturel. Et sûrement pas du côté de Mark Zuckerberg, c'est ça ? Il s'appelle comme ça.
Des milliardaires, vous voulez dire.
Des milliardaires, oui.
Bon.
Vous savez.
Enfin bon. comment allez-vous, vous ?
Ça va très bien.
Bon, le week-end a été bon aussi ?
Très bon également.
Bon, et vous, chers amis, le week-end a été bon ? Oui, j'en suis sûr. Et puis s'il a été moins bon, on va en parler pendant ces 2h30 ensemble. Je vous dis à tout à l'heure, mon cher Alexandre.
À tout à l'heure, Olivier.